On en apprend toujours avec notre ami Farnel Morissette. Je vous rappelle une petite météo, 15 degrés à l'heure actuelle, 28 degrés ensoleillé. Aujourd'hui, 28 alternant soleil et nuages pour vendredi. Pour samedi et dimanche, il annonce de la pluie jusqu'à présent, là, mais des possibilités d'averse 30 % samedi. Donc, on va sûrement s'en tirer avec des 26 et 28 degrés. Farnel, on vient de parler du dossier de Jeffrey Epstein, un dossier très complexe. Très compliqué à comprendre. Merci pour tes éclaircissements. Et là, on a besoin d'être éclairé sur le redécoupage de la carte électorale aux États-Unis parce que cette semaine, coup de théâtre, les élus démocrates du Texas se sont sauvés en Illinois puis dans l'État de New York pour pas se faire arrêter et pour pas qu'on redécoupe la carte électorale au Texas qui irait à l'avantage des républicains. Et là, quand on s'échangeait des textos hier, tu me disais « Hey Jeff, pas la première fois que ça arrive, des redécoupages à l'avantage d'un parti politique. Explique-nous pourquoi ça fonctionne comme ça aux États-Unis.
Contrairement au Canada, où on a des organismes, des comités non-partisans et transpartisans qui sont chargés de faire le découpage de la carte électorale selon des données les plus quantitatives possibles, de façon le plus, j'aime pas le terme neutre, mais disons le plus impartial possible, aux États-Unis, selon la Constitution des États-Unis, c'est les États eux-mêmes qui contrôlent leur processus électoral fédéral. Alors, c'est les États qui ont chacun leur propre, leur équivalent de l'Assemblée nationale, qui décident comment vont être découpés les districts électoraux aux élections fédérales. Et ils ont le droit de les découper comme ils veulent. Il n'y a pas de comité non partisan, c'est vraiment c'est le gouvernement au pouvoir qui décide, voici comment on va faire la carte électorale cette fois-ci. Ça a été confirmé par la Cour suprême que c'est un pouvoir politique, on ne peut pas poursuivre s'ils le font de façon injuste ou inadéquate. Alors, et ça c'est pas nouveau, là, depuis presque 200 ans, les États utilisent ce pouvoir-là pour pouvoir découper la carte électorale à l'avantage de leur parti. Les républicains le font, les démocrates le font. Le terme pour ça, c'est du gerrymandering. C'est un terme qui date de 1840, après le gouverneur du Massachusetts, parce qu'il avait créé des districts qui s'appelaient Jerry. Mm-hmm. Il avait créé un district que les gens regardaient ça sur la carte, ça n'a pas de bon sens, ça a l'air d'une salamandre. D'où le mot « gerrymander ». Et si on regarde encore aujourd'hui, il y a des districts dans presque tous les États. Il y a certains États qui ont pris des mesures. Tu sais, c'est les districts qui ont rien à voir avec nos districts qui sont généralement des formes à peu près adéquates. T'sais, un enfant serait capable de dessiner la forme. Tu as des districts où c'est comme le district a une grosse poche dans un secteur de la ville, puis là, le district se continue juste le long d'une autoroute, mais pas des deux bords de l'autoroute, jusqu'à un autre.
Tout ça est pensé, que ce soit par un démocrate ou un républicain, pour dire cette circonscription-là va être à notre avantage.
C'est ça. On est pas mal certain que les gens, si on choisit ce bassin de population-là, ce bassin de population-là, puis on les arrange de cette façon-là, on va gagner ce district-là. Il y a des façons mathématiques, des modèles mathématiques pour le faire, mais si on veut se simplifier beaucoup la tâche, si on imagine le Texas. Le Texas, c'est un État qui est majoritairement républicain, mais dans les villes, vote très démocrate. Alors, imaginons la ville de Austin au Texas, qui est une ville qui vote très démocrate. Bien, on pourrait redécouper la ville et ses environs pour que la ville elle-même ait deux ou trois districts qui vont être majoritairement des électeurs de la ville qui sont majoritairement démocrates et on va inclure un peu de la population républicaine dans les banlieues et s'assurer d'avoir deux ou trois démocrates qui vont être élus. Ou on pourrait prendre exactement la même ville, la diviser en 15 tranches différentes et chaque petite tranche de la ville, on va l'associer à un énorme district rural où c'est très majoritairement républicain et s'assurer qu'aucun électeur démocrate de la ville soit capable de faire élire un seul démocrate. Puis là, j'utilise démocrate républicain, j'utilise le Texas, mais choisissez le parti que vous voulez, l'État que vous voulez. Ils le font depuis toujours et ils se blâment tous d'avoir commencé. C'est monnaie courante maintenant aux États-Unis, cette pratique-là.
Dans le cas du Texas, il y a Gene Wu, un élu justement démocrate qui s'est sauvé en Illinois, qui a rapporté les propos que je te fais entendre.
The tool they're using is a racist gerrymandered map. A map that seeks to use racial lines to divide hard-working communities. And Governor Abbott is doing this in submission to Donald Trump. So that Donald Trump could steal these communities' power and voice.
Est-on vraiment dans une situation où on tente justement dans les communautés ethno-culturelles d'enlever ce pouvoir-là d'élire des élus démocrates avec le redécoupage qui se passe au Texas?
Ça ressemble beaucoup à ça. Là. Je veux pas imputer d'intention raciste ou quoi que ce soit à qui que ce soit, mais ça reste que oui, c'est ce qui se passe présentement. On est en train de prendre une communauté qui est une émanation un peu naturelle de la géographie puis de la sociologie de l'endroit et on les divise pour qu'une partie de leur vote soit submergée sous un grand bassin d'électeurs républicains d'un bord, une autre partie du vote soit submergée sur un grand bassin de républicains de l'autre bord, et ben, les élus démocrates au Texas, dans, encore une fois, l'équivalent de l'Assemblée nationale du Texas, alors c'est pas le Parti républicain ou démocrate fédéral, ont décidé que pour empêcher le vote, ils allaient quitter l'État. La raison qu'ils font ça, c'est que selon les lois au Texas, s'il n'y a pas un nombre minimal d'élus présents en chambre, un quorum, ils ne peuvent pas voter. Et pourquoi ils ont quitté l'État? Pourquoi ils ne sont pas juste dehors dans le corridor à attendre? Ben c'est parce que, selon les lois au Texas, c'est illégal. C'est pas criminel, là, c'est une amende civile, mais quand même, c'est illégal pour les élus de ne pas se présenter en chambre quand ils sont demandés, à moins d'avoir une permission de la chambre, chose que les élus démocrates, évidemment, n'ont pas. Alors, ils ont quitté l'État au complet pour ne pas pouvoir se faire arrêter et ramener de force en chambre. Et ils sont présentement dans des États qui sont contrôlés par des démocrates, alors largement en Illinois, certains sont à New York, d'autres ailleurs, pour s'assurer que les gouverneurs de ces États-là, qui sont des démocrates, ne vont pas coopérer avec le Parti républicain, les arrêter et faire une extradition vers le Texas pour les forcer à être en chambre pour que le vote puisse se tenir. C'est un peu fou ce qui se passe présentement, là.
Tout ça, c'est dans l'objectif de conserver une majorité aux élections de mi-mandat.
Oui.
C'est ça?
Oui. Tu fais bien le rappeler. C'est que, ultimement, ce qui est en jeu, c'est la majorité républicaine à la Chambre des représentants, qui est une des deux chambres du Congrès. Le Congrès a le Sénat et la Chambre des représentants. À tous les deux ans, le Congrès au complet se fait réélire et un tiers des sénateurs se font réélire aussi. On ne pense pas que les districts vont tant toucher les sénateurs. À vrai dire, ils ne devraient pas parce que les sénateurs sont élus au niveau de chaque État. Mais les districts eux-mêmes vont contrôler qui va être élu dans la Chambre des représentants. Et l'agenda législatif de M. Trump exige qu'il ait l'appui du Congrès pour l'énorme majorité de ces mesures. C'est le Congrès, selon la Constitution des États-Unis, qui contrôle le droit de taxer. On l'oublie pas, les tarifs, c'est des taxes. Qui contrôle le droit de dépenser. On pense au Big Beautiful Bill qui a financé tous les objectifs législatifs de M. Trump. Tout ça était seulement possible parce que M. Trump avait une majorité d'appui à la Chambre des représentants. Probablement qu'au mi-mandat, il va perdre cette majorité-là, comme c'est présentement le cas. Et pour essayer d'éviter ça, ben c'est là que le Texas a dit « OK, on va redistricter, on va redessiner notre carte électorale pour garantir qu'on va pouvoir avoir probablement au moins 5 républicains de plus pour empêcher le Parti républicain de perdre le contrôle de la Chambre ». Et ça, ben, ça a un impact national parce que tous les États, tous les citoyens des États-Unis vont être impactés par cette décision-là qui appartient au Texas. Alors, en réponse à ça, on a d'autres États démocrates, la Californie, New York et d'autres, qui commencent à dire « Bon, ben, si vous faites ça, nous autres aussi, on va le faire. » Puis nous autres aussi, on va redessiner nos districts pour envoyer 10, 12, 15 démocrates de plus pour garantir que vous allez perdre. Alors, on n'est même plus en train de se dire « On va se fier aux communautés locales qui se dessinent d'une façon un peu naturelle d'envoyer leurs représentants. C'est maintenant les politiciens, selon des lignes partisanes dans les partis, qui sont en train de se dire « Bon, ben on va choisir, ça va être qui, nos électeurs, pour garantir que nous, on gagne. » C'est pourquoi on en parle? Parce que ce genre de choses-là ne se passe pas présentement au Canada, mais c'est sûr qu'il y a des Canadiens qui regardent ça et disent « Ah, c'est drôle, intéressant. » On en parlait tantôt.
Non, mais ça se passe au Canada. On les redessine, nos lignes électorales.
On les redessine, mais on les redessine pas selon... C'est pas le Parti libéral qui redessine les lignes. Ouais. C'est pas le Parti conservateur qui a son pouvoir qui redessine les lignes. On les redessine selon des critères qui sont mesurés et puis après ça, qui sont appliqués de façon...
Démographiques.
Exactement, démographiques, selon des mouvements naturels de communautés et qui sont appliqués de façon non partisane. On ne les dessine pas en fonction de ben, qu'est-ce qu'il faut. Il faut que la ligne soit où pour que je gagne. Ça, ouais. On le fait pas ici.
Est-ce que c'est antidémocratique, le faire de cette façon-là? Puis là, tu sais, je mets autant les républicains que les démocrates, là, je les mets dans la même situation parce qu'ils font la même chose. Puis même, là, avec le Texas qui veut le faire, l'État de New York, la Californie veut faire la même chose, ça va créer un chaos total aux États-Unis.
Ben, ça va accentuer un chaos qui existe déjà. Mais la question démocratique, c'est que ça devient une question de savoir, ben, c'est quoi la démocratie? Parce que strictement parlant, si on pense que la démocratie, c'est juste le droit d'aller voter une fois aux 4 ans, ben oui, fine, ils votent. Les gens vont voter. Les dés sont pipés d'avance, mais il y a eu un vote. C'est que la démocratie, c'est beaucoup plus que ça. La démocratie, c'est aussi une culture de l'exercice du pouvoir. Et ce qu'on voit présentement, c'est plus une culture de démocratie aux États-Unis, c'est une culture de pouvoir. C'est-à-dire, on a le pouvoir, alors on peut faire ce qu'on veut, puis on a le droit de le faire pour qu'on garde le pouvoir. Toutes les démocraties au monde peuvent se donner les meilleures lois au monde. Si, à la fin de la journée, il n'y a pas quelqu'un qui garde l'esprit des règles en jeu, il va toujours avoir quelqu'un pour dire...
L'équilibre?
Je pense que c'est plus une question de retenue. T'sais, fondamentalement, une démocratie exige une certaine retenue de la part de ceux qui ont le pouvoir qui ne se codifie pas dans des lois, qui se trouve dans un sens civique, dans un sens moral, dire « j'ai peut-être le pouvoir de faire ça, mais ce serait un abus de droit et je ne vais pas le faire ». Et cette culture-là, elle est effritée et s'effrite de plus en plus aux États-Unis. Il faut la garder chez nous.
Qu'est-ce que ça engendre comme conséquence si on a une Chambre des représentants aux élections de mi-mandat qui perd sa majorité républicaine? Qu'est-ce que ça change pour le régime de Donald Trump actuellement?
Ben, ça change qu'il perd les leviers du pouvoir pour faire avancer son agenda législatif.
Donc, il n'y a plus rien qui va bouger. On va être sous un...
Ça va être une paralysie.
Paralysie pendant 2 autres années.
Oui, ben, je veux dire, des paralysies du genre, au Canada, on n'aime pas ça, mais c'est imbriqué dans le système aux États-Unis. C'est supposé être des contre-pouvoirs toujours.
Il y aura une négociation Dallas, exactement. Le contre-pouvoir, un peu comme on voit avec le gouvernement minoritaire présentement au Canada depuis longtemps.
C'est ça. Aux États-Unis, ils appellent ça le système de checks and balances, d'équilibre qui se contre-vérifie. Et c'est voulu, c'est intentionnel. Mais oui, ça veut dire que le président qui n'a pas le pouvoir législatif de passer des lois, d'imposer des taxes, va être obligé de négocier avec la nouvelle majorité démocrate. Et l'idée, c'est qu'en théorie, ça mène à des compromis dans la mesure que les différents acteurs politiques sont prêts à mettre un peu d'eau dans leur vin. Puis on verra à quel point ils sont capables de le faire. Ça s'est fait dans le passé. C'est monnaie courante qu'un président d'un parti se heurte à une chambre d'un autre parti et qu'il y ait des flamèches et que des fois, tout arrête le temps que ces impasses-là se
négocient. Si je ne me trompe pas, c'est le cas de Joe Biden à la fin de son mandat.
C'est le cas de tous les présidents dans la deuxième moitié de leur mandat. C'est pour ça, d'entre autres, qu'on les appelle des élections de mi-mandat parce que les présidents sont élus pour 4 ans, mais ces élections-là ont lieu aux 2 ans. Généralement, après les 2 premières années d'un mandat d'un président, il va perdre la majorité dans la Chambre et il va être contraint à renégocier ses affaires. Donald Trump voit ça venir, il se dit « j'ai 18 mois et je préférais garder ma majorité, alors si on peut jouer sur les règles là-dessus, comme tout le monde l'a déjà fait encore une fois, ben, ça, c'est juste à mon avantage de le faire. »
Cette histoire-là, c'est jusqu'où que ça peut escalader? Parce que là, on a eu des démocrates qui ont littéralement fui leur devoir de représentant. On a un gouverneur qui est comme « on va les prendre, on va les ramener de force » et c'est jusqu'où que ça va débouler, cette histoire-là, au final?
Le scénario apocalyptique, le pire scénario envisageable, que je ne crois pas qu'il va arriver, mais juste pour comprendre l'enjeu, ce serait que le Texas appelle le gouvernement fédéral, dise « Hey, nous, on a des gens qui se réfugient présentement dans d'autres États qui ont violé notre loi. » C'est ça, je veux dire, généralement, quand tu violes la loi dans un État puis tu vas te cacher dans un autre État, l'autre État va t'arrêter puis te ramener. Si l'autre État refuse de le faire, le Texas pourrait aller voir le gouvernement fédéral, dire « on a essayé de négocier avec l'Illinois, ils ne veulent pas arrêter ces fugitifs-là pour les ramener chez nous pour qu'ils fassent face à la justice. On demande au gouvernement fédéral de le faire. » Alors là, le gouvernement fédéral pourrait envoyer des agents du FBI, par exemple, pour arrêter les démocrates texans récalcitrants qui sont présentement réfugiés en Illinois, à New York. Et leur autorité pour le faire ne serait pas entièrement claire parce que ce serait un usage domestique et les États gardent une grande souveraineté sur l'usage domestique de la force. Alors, le pire scénario envisageable, c'est ça, c'est qu'il y a des agents du FBI à la demande du gouvernement du Texas qui aillent en Illinois pour essayer de les arrêter et que la police en Illinois dise « ben non, vous n'avez pas l'autorité de le faire, nous, on va défendre des réfugiés » et que là, ça commence à dégénérer en violence. Ça, c'est le pire scénario envisageable. Je pense absolument pas que c'est ça qui va arriver. Il n'y a aucune raison de le croire, mais c'est une C'est une possibilité théorique qui est en jeu présentement.
Mais comment ça peut se régler à l'amiable? Parce qu'ils n'ont pas d'heure prêt à revenir de sitôt, là, de Texas. C'est quoi, ils vont-tu dire, finalement, on va pas la découper? Comment ça peut se régler sans que, si les démocrates décident de pas revenir, comment qu'on peut voir la fin de ce conflit-là?
La seule façon que ça peut se régler, c'est par négociation. La fuite présente des démocrates, c'est une mesure de pression qui oblige une continuation de la négociation. Pendant ce temps-là, il y a du spin politique des deux côtés. T'sais, les républicains au Texas sont en train de dire « Ah, les démocrates sont même pas en train de faire leur job, rassurez-vous de voter contre eux. » Puis là, pendant ce temps-là, les démocrates regardent cette pression-là et disent « Est-ce que le public est encore de notre bord ou non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? »
C'est le public qui va décider comment les négociations vont commencer.
Idéalement, au final, c'est toujours le public qui décide, mais le pouls de ce public-là, c'est aux élus à le lire. Et puis, si un côté ou l'autre pense qu'on est en train de perdre nos appuis, OK, on va négocier, on n'a plus la force qu'on pensait avoir, on est prêt à faire des concessions, et puis éventuellement, ça va se régler. Ça va se régler de façon négociée politiquement, souhaitons-le.
Je veux pas trop abuser de ton temps, donc je saute rapidement. Puis on pourrait le faire sous la formule capsule TikTok, parce qu'on le rappelle. Tu es un vulgarisateur sur TikTok hors pair. Hier, Magali Lepage a attribué une peine de 2 ans d'emprisonnement à Frank Paris, une personne qui vient d'une communauté culturelle.
On peut dire il est noir.
Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, parfait. Et dans sa sentence de 2 ans d'emprisonnement, elle a tenu compte justement de sa nationalité dans son jugement, de dire c'est 2 ans de prison. Puis elle en a tenu compte comme étant un élément qui fait en sorte qu'elle a réduit la peine. Et là, il y a plusieurs gens qui ont déchiré leur chemise sur la place publique, notamment le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet. Toi, en tant que juriste, t'en penses quoi?
Il faut se mettre dans le bon état d'esprit pour parler de ça, parce que je sais que c'est un sujet qui est chargé, qui est émotif.
Exactement.
Avec très bonne raison. On parle là, de questions qui sont profondes au vivre ensemble québécois. On a raison d'être sensible à ça. Et ça serait vraiment facile de dire « ça n'a pas de bon sens, on aille ça, puis mettre tout le monde en maudit ce matin. » là. Et bon, si vous êtes dans votre auto, vous allez travailler, peu importe, je vous souhaite une meilleure journée que ça. Alors, pour se mettre dans le bon état d'esprit, il faut essayer de comprendre, puis je vais passer par une analogie. Là. Tout le monde comprend un peu intuitivement par le fait qu'on vit dans notre société que les très belles personnes, des fois, elles l'ont un petit peu plus facile. Une belle personne, on s'entend que meilleure chance qu'elle ait un avertissement au lieu d'un ticket par un policier. Meilleure chance qu'on lui pardonne certaines erreurs à la job. Va peut-être avoir un traitement un peu plus favorable, quelques minutes de plus avec un médecin dans sa consultation. T'sais, plein de petites affaires de même.
C'est démontré par des études.
C'est démontré par des études.
Les
personnes
qui sont plus qui se présentent mieux sur le plan de l'esthétisme réussissent plus facilement, réussissent mieux.
Vous n'allez jamais trouver une loi qui dit nous devons mieux traiter les belles personnes.
Mais non.
Ça n'existe pas. C'est une accumulation de tout petits gestes qui chacun est fait de façon probablement innocente.
Ou très inconsciente.
Très inconsciente, c'est ça, sans intention malicieuse qui fait que les belles personnes. Ils ont des petits avantages qui s'accumulent tout le long d'une vie, qui mènent à, comme tu le dis correctement, les études l'ont démontré, tu sais, des avantages financiers importants, des avantages en traitement sociaux importants. Ça, on est tous capables de comprendre. Puis ça nous, c'est sûr que ça nous écœure, là, on n'aime pas ça. C'est un peu injuste, mais on est tous capables de le comprendre et ça ne nous heurte pas dans notre réalité identitaire de le reconnaître. Alors, si on est capable de reconnaître qu'un attribut physique comme la beauté peut se traduire à la longue d'une vie dans une société complexe remplie de petites interactions innocentes à un avantage important, qu'on pourrait appeler un avantage systémique, on peut de la même façon, avec la même attitude, reconnaître que d'autres attributs physiques d'une personne peuvent, à la longue, dans une société complexe, dans un ensemble d'interactions, chacun inconscient ou innocent, mener à des désavantages. Et c'est tout comme les avantages, on les appelait des avantages systémiques, ces désavantages-là, on peut les appeler des désavantages systémiques aussi. Quand on parle d'avantages systémiques, c'est pas le fun, on n'aime pas ça, c'est un peu injuste, mais on parle pas de la liberté d'une personne, on parle pas de ses interactions avec la force de l'État, tandis que dans les désavantages, et ça encore une fois, ça a été démontré, ça a été prouvé même devant les tribunaux, que certaines personnes, particulièrement issues de communautés noirs, de communautés arabes, ne reçoivent pas à la longue, dans l'ensemble de ces petites accumulations-là, un traitement qui est le même que tout le monde. Alors, on garde ça en tête, OK? On n'est pas en train de dire que personne n'est méchant, là. On est juste en train de reconnaître qu'on vit dans une société complexe qui ne traite pas tout le monde de la même façon. Deuxième chose qui est très importante, depuis très longtemps, c'est reconnu en justice qu'il n'y a pas deux crimes qui ont le contexte identique et on veut toujours une peine qui s'arrime au contexte du crime.
C'est le cas par cas.
C'est toujours du cas par cas.
Ça va être l'effet, exemple, d'une peine pour violence.
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est produit?
Si moi, j'ai bu un coup puis je rentre dans un bar puis je me bats contre quelqu'un d'autre qui m'achalait, là, j'ai commis un voie de fait. Si demain matin, je me lève puis je commence à frapper une vieille madame dans la rue, j'ai aussi commis un voie de fait. Techniquement, c'est le même crime, mais on s'entend tous pour dire qu'il y en a un que je mérite pas mal plus de prison que l'autre.
En effet.
C'est toujours ces questions de contexte-là. Alors, pour ces contextes-là, généralement, les juges ont le droit, mais ils n'ont pas l'obligation. Les juges qui passent les sentences peuvent agir avec une grande discrétion. Ils ont le droit de demander des rapports présententiels pour dire « Je veux que des experts me conseillent dans tous les facteurs que je devrais prendre en compte » avant de livrer une sentence. Ça, ces facteurs-là, ça peut être des facteurs socio-économiques, des facteurs aggravants comme la nature de la victime, la motivation, des facteurs atténuants comme, ben, écoute, l'autre l'avait bavé dans un bar ou il était sous, peu importe.
Est-ce que ça peut être des facteurs du style, parce que là, on a des auditeurs qui nous écrivent, l'enfance que j'ai vécue, si
ça
j'ai
peut
une
être
enfance
ça.
Qui a été perturbée, exemple, par un père alcoolique, un père violent?
Ça peut être ça, en effet. Ça va être un facteur qui va être pris en compte aussi. C'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas une chose qui va excuser quelqu'un, mais la responsabilité du juge, de la juge, c'est de prendre en compte tous ces facteurs-là. Et dans les rapports présententiels, encore une fois, ça ne date pas d'hier, souvent, il y a des facteurs socio-économiques qui sont liés à l'origine ethnique, l'origine culturelle, le vécu de la personne. Ce qui se passe au Canada, c'est que, ailleurs au Canada qu'au Québec, c'est que depuis longtemps, on demande un élément particulier de ces rapports-là qui touche sur les impacts des désavantages systémiques de la personne, comme on en a parlé tantôt. Au Québec, ça se faisait pas. C'était probablement à l'intérieur du rapport même. La juge ici a dit « Ah, j'aimerais qu'on porte particulièrement attention à ça. » Alors, c'est comme si elle avait demandé un annexe à ce rapport-là, qui est un rapport particulier sur les impacts des origines culturelle et ethnique de cet individu-là. Puis là, je veux rappeler, il y a quand même eu 2 ans de prison pour cannabis et hashish. Là, c'est pas une sentence bonbon, 2 ans de prison. Et il a été trouvé coupable. Et dans l'ensemble des choses qui ont été prises en compte, oui, l'accumulation des facteurs liés à son origine ethnique et culturelle a été isolée dans une partie séparée des rapports d'experts plutôt que les rentrer dans le rapport général. Alors, je comprends encore une fois, là, il y a des gens que même ça, c'est trop, je vous comprends, c'est un sujet qui est sensible, mais avant de se lancer dans se crisper les mains puis dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, on traite les gens différemment selon leur race », c'est pas ça qui se passe, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé que ça.
En même temps, une très belle personne noire, une très belle personne asiatique et une très belle personne blanche vont tous vivre des avantages liés à leur beauté.
C'est pour ça qu'on parle ensemble des choses.
Il y a la même chose avec les critères de grandeur. Ça a été démontré qu'une personne de grande taille a souvent accès plus facilement à des postes de pouvoir. Donc, les hommes qui mesurent 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 4, ça les aide dans l'accessibilité à des postes de pouvoir. Alors, on n'est pas en train de faire des fausses comparaisons entre des critères physiques et des critères ethnique. C'est comme si on essaie de faire un parallèle qui, à mon sens, ça n'a pas rapport.
On n'est pas en train de faire des comparaisons. On est en train de prendre un ensemble de facteurs en tête. Certains éléments peuvent être physiques, certains éléments peuvent être ethnoculturels, certains éléments peuvent être raciaux, certains éléments peuvent être une question de l'origine de la personne et de sa culture, certains éléments peuvent être une question de sa perception de l'extérieur, de comment il a été vu par ses autres interactions. L'idée, c'est de prendre une vision d'ensemble. C'est pas de dire « Ah ouais, mais toi, t'es beau, donc c'est plus 5, mais t'es noir, donc c'est moins 2. » C'est pas ça qui se passe, là. On prend en compte l'ensemble de tous les facteurs liés à l'individu, à son contexte dans le lieu, dans le moment du crime, de la victime et de tout. Et parmi ces choses-là, oui, on va prendre en compte ses expériences liées avec son origine ethnique et raciale.
Donc, on présume qu'une personne blanche le plus facilement?
Non, c'est pas ça qu'on présume. On présume pas au cas par cas. On n'est pas en train de dire « toi, t'es blanc, donc tu l'as le plus facile ». On est en train de dire que...
Ben, si on dit que toi, t'es d'une autre origine ethnique, donc tu l'as eu moins facilement. Alors que dans le fond,
Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est dans le rapport. Dans le rapport, on a regardé l'individu, on a regardé son passé, on a regardé sa réalité à lui. On n'a pas dit, ben, t'es noir, donc c'est ça. Le rapport, puis là, ce qui est malheureux, c'est que l'ensemble de la décision n'est pas encore disponible. Ouais. Alors, il y a juste quelques journalistes qui l'ont vu, qui en ont retiré certaines phrases pour vendre des articles. Je comprends ça. Mais l'ensemble de la chose, c'est pas dire, t'es noir, donc c'est moins 2 ans. C'est dire, bon, ben, toi, ton expérience, ton vécu dans l'ensemble de ta vie, on va prendre en compte toutes les particularités à toi. Un des facteurs dans ton cas, ça a été ça. On a parlé entre autres de sa réalité où il a passé beaucoup de temps à Halifax. La réalité raciale à Halifax, c'est pas du tout la même qu'elle est ici. Alors c'est pas, il faut vraiment faire attention à pas réduire ça à dire ah ben t'es noir donc tu l'as le plus difficile donc on va faire plus attention à toi. C'est pas ça qui se passe. On prend l'ensemble de la personne en compte.
Farnell, t'as une formation en droit. Admettons là qu'on s'éloigne de ce critère ethnique là, puis on se dit. La pauvreté, grandir dans un milieu familial poqué par l'alcool, la drogue, des parents qui négligent leurs enfants. Est-ce que c'est pas tranquillement glisser vers un système à 2 vitesses que de dire, ben certaines personnes qui vont commettre des crimes, mais compte tenu qu'ils viennent d'un milieu plus poqué, y auront des peines ou des permissions de libération conditionnelle différentes à cause de leur enfance. Donc, on va se mettre à appliquer un système de justice à 2 vitesses en regardant... Parce que ça aussi, ce sont des critères. Tu viens d'une bonne famille, tes parents gagnaient bien leur vie.
Mais moi, je le vois pas du tout comme un système de justice à 2 vitesses. Au contraire, c'est un système de justice qui existe depuis toujours.
C'est un système de justice adapté.
On adapte la peine à quelque chose qui n'est pas relatif à ton crime, qui est relatif à ton passé.
Mais ça, c'est pas nouveau. On le fait depuis très longtemps. On regarde...
On regarde le crime commis et on regarde l'historique du dossier.
Mais quand c'est le temps de faire la sentence,
s'il y a récidive,
on regarde aussi justement tout le passé, la réalité sociale, culturelle, économique d'une personne. Ça, c'est pas nouveau. Là. Ça se fait. On veut toujours que la sentence soit adaptée au crime dans tout son contexte, dans toute sa réalité. Ben. On parle pas d'un système de 2 vitesses. S'il y a 8 millions de Québécois, l'idéal, ce serait un système à 8 millions de vitesses où chaque individu est pris en compte pour sa réalité pratique à lui ou à elle par un juge qui va après ça à donner une peine qui est adaptée à la réalité de l'individu.
Ben
on n'est plus dans une réalité de justice où tout le monde a la
même... Un père tue son enfant, ça dépend. Il n'y aura peut-être pas la même peine. Un père qui tue un enfant, un autre père qui tue un enfant, ça dépend à ses études.
Les deux crimes ne sont pas les mêmes.
Ah, fait qu'il est médecin, il mérite une peine plus clémente que l'autre qui était garagiste ou chômeur.
Mais non, mais il ne faut pas simplifier à outrance de cette façon-là. Ben... C'est pas ça qui se passe.
Tu le réduis, Jacinthe. Je ne sais pas comment le dire, mais tu fais du détournement cognitif.
Non, ce n'est pas du tout ça qui se passe.
C'est plus simple.
Non, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que moi qui se bat dans un bar mérite pas la même sentence que moi qui bat une vieille madame? Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça mérite pas la même sentence?
Mais ça, c'est pas toi qui change, c'est le crime qui change.
Non, mais le contexte, le crime est le même, c'est un voie de fait. C'est le même crime, c'est un voie de fait dans les deux cas. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça mérite pas la même sentence?
C'est le même crime.
Ben oui, c'est le même crime, c'est un voie de fait dans les deux cas, c'est le même article du code criminel.
T'sais, j'ai un jeune qui s'est fait battu par son père, qui se fait battre par son père puis qui tue son père. Il va avoir une sentence moins grande que le gars qui débarque demain matin dans un gang criminalisé puis qui s'en va tuer un.
Mais tu parles d'un jeune puis tu parles d'un adulte. C'est sûr que là, on n'est même pas dans le même. On est pas le
mec qui a 20 ans là, fait battre par son père toute sa vie, puis que ça va le tuer, on va l'évaluer dans le cas par cas, puis cette personne-là va avoir le droit à une libération conditionnelle plus tôt que l'autre personne qui fait partie d'un gang criminalisé. Ça a toujours existé.
Je pense que vous
le
présentez
justice.
Comme une évidence, puis je pense qu'il y a matière à débat.
Je pense qu'il y a probablement aussi matière à éducation du public, parce que ce que je décris maintenant, c'est pas quelque chose qui est nouveau, là, puis c'est quelque chose qui a été longtemps accepté par bien des gens à chaque fois qu'on s'est posé la question. On a déjà eu des tentatives dans le passé de mettre des peines minimales, et ces tentatives-là ont été rejetées par la classe politique après.
Mais c'est si normal, pourquoi on parle de cette situation-là?
Parce que c'est choquant, parce qu'il y a un juge qui a utilisé des mots comme racisme systémique, puis qui a demandé un annexe spécifique pour regarder ça, parce que c'est super facile aller voir les gens, puis les fâcher, puis les mettre en maudit, dire « Ah, ça y est, on simplifie à outrance, on dit « On traite les gens différemment selon leur origine raciale », quand c'est pas ça qui se passe. C'est facile s'ancrer là-dessus pour faire peur au monde, pour les mettre en maudit, pour après ça garder leur attention pour toutes sortes d'autres raisons, mais il faut prendre le temps de regarder comment on s'est rendu là et pourquoi, et l'ensemble de la réalité sociale derrière ça, qui se résume pas à quelque chose d'aussi simple que dire « Ah, ben on traite les gens différemment selon leur origine raciale ». C'est pas ça qui se passe.
C'est ça. Ça fait partie d'un ensemble de facteurs. Puis l'erreur, je crois, qui a été faite de la part de la juge Magali Lepage, puis corrige-moi si je me trompe, Farnell, c'est qu'on l'a sorti en annexe au lieu que ça soit dans l'ensemble des facteurs évalués comme les autres facteurs qu'on parle.
Ben c'est ça, c'est une pratique. Le rapport spécifique là-dessus, c'est une pratique qui est répandue à travers le Canada. Oui, c'est la première fois que ça se fait au Québec. Est-ce que c'est une erreur? T'sais, moi, comme je disais, là, le jugement lui-même, je ne l'ai pas encore lu au complet. Alors, j'aimerais le lire avant de me prononcer à dire que la juge a fait une erreur ou non. Mais que ce soit séparé ou intégré à l'ensemble des autres rapports qui sont remis, selon moi, c'est plus une différence esthétique qu'une différence de fond.
Parfait.
Mais on a quand même une admission là-dedans qu'il y a du racisme systémique dans le système.
Ben oui, mais je veux dire, le racisme systémique, il y a déjà eu
c'est
des...
C'est pas admis?
Ben, c'est, ça a été prouvé en cours. Il y a eu des décisions il y a 2 ans à propos du traitement des personnes racisées versus les autres dans les interceptions policières, dans les automobiles, par exemple, le fameux Driving While Black. Ouais. Il y a eu des décisions, ça a été prouvé devant un tribunal que ça se fait, que ça existe. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a encore des membres de la classe politique qui refusent de le reconnaître. Peut-être parce que, justement, ils ont l'impression qu'on est en train de pointer le doigt les Québécois, de dire « Vous êtes une gang de sale, de pas gentil, de raciste », quand c'est pas du tout ça. T'sais, rappelons-nous de l'analogie de la belle personne. Là. On est capable de le reconnaître dans un cas, on est capable de le reconnaître dans l'autre sans se culpabiliser, sans dire qu'on est des mauvaises personnes. C'est juste reconnaître qu'on est des humains, puis la société, c'est complexe. Puis des fois, malheureusement, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, il y a une accumulation de désavantages chacun innocent qui mène à long terme, à un impact négatif sur une personne qui n'a pas lieu d'être.
Farnell Morisset, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici en studio avec nous à Boulevard 102.1. On se refait ça prochainement, c'est certain. Merci d'avoir pris beaucoup de temps avec nous
ben
ce
oui.
matin.
Ben, j'apprécie beaucoup l'opportunité d'en
moment,
parler,
c'est
l'écoute.
Fun.
C'est ouais. super agréable.
Hey, on a fait une heure!
Une heure?
Ben oui.
Ben, Colin.
C'est pratiquement deux trucs de 30 minutes. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin.
Merci pour l'invitation.
Merci.
On se reparle
agréable.
Bientôt. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine, mais si
Bonne
jamais,
vacances.
Je suis certain que Max Larouche va te faire signe pour que tu viennes faire un petit tour avec Jacinthe Ève et
bon.
Également Mathias Turcotte.
Merci beaucoup.
Merci.
Cool. Vous êtes à Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin. Et après la pause, on fait l'essentiel de l'actualité. On revient sur ce fameux bloc d'énergie 354 mégawatts qui sont encore réservés pour Northvolt, alors qu'on perd des milliards de dollars d'investissement de nos compagnies ici au Québec, et pas juste au Québec, à Lévis. Donc, on revient avec ceci après cette courte pause.
Jusqu'à 10h, Boulevard.